Bonjour à tous, il est midi ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Karine Bellicha.
À la une, la trêve instaurée en janvier va-t-elle tenir au Proche-Orient? La défense civile palestinienne fait état d'un bombardement israélien près de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. L'État hébreu dit avoir visé des suspects manipulant un objet explosif. Israël bloque également l'aide humanitaire en direction de l'enclave palestinienne alors que les négociations piétinent au Caire. Britanniques et Français travaillent de concert sur un plan de cessez-le-feu aux côtés des Ukrainiens. Le message est clair, la paix ne peut se conclure qu'en concertation avec Kiev. Londres et Paris sont à la manœuvre face au rapprochement de Washington et de Moscou. Et puis les étudiants ont de nouveau réussi à fédérer les mécontentements de la société civile en Serbie. Ils étaient des milliers dans les rues de Niš hier. La contestation ne faiblit pas. Reportage à suivre. La tension est donc forte au Proche-Orient ce matin. Il y a quelques instants, la défense civile palestinienne a fait état de tirs d'artillerie et de chars près de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Israël dit avoir depuis visé des suspects manipulant un engin explosif. Harim Lipold nous a rejoint pour en parler. Bonjour Harim.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
La situation est tendue depuis quelques heures, depuis la décision de l'État hébreu de prolonger la première étape de la trêve, faute d'accord sur la suite.
Oui, en fait, Israël reproche au Hamas son refus d'accepter une proposition américaine d'extension de la trêve. Cette proposition a été mise sur la table par l'envoyé spécial du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Elle prévoit une prolongation de la trêve pendant le Ramadan et la Pâque juive, soit jusqu'à la mi-avril. Le gouvernement israélien a accepté cette nuit ce plan, mais le Hamas s'y oppose. Le mouvement islamiste exige l'application de la deuxième phase du cessez-le-feu prévu par l'accord initial, estimant que la proposition américaine permet à Israël de se soustraire aux accords qu'il a signés. En réaction à ce refus, Israël, vous l'avez dit Karine, a suspendu l'entrée de marchandises et d'approvisionnement dans la bande de Gaza. Le Hamas a immédiatement dénoncé, je cite, un chantage mesquin, un crime de guerre et une violation flagrante de l'accord de trêve. Il a ajouté qu'Israël portait la responsabilité du sort des otages retenus à Gaza. Lors de la première phase de la trêve, le Hamas avait libéré 25 otages et remis le corps de 8 autres à Israël, qui en échange avait relâché environ 1800 détenus palestiniens.
Harim Lipold du service international d'RFI, on continue de suivre la situation au Proche-Orient dans nos prochaines éditions. Michel Paul sera en direct de Jérusalem dans une heure.
RFI.
Il était prévu avant la violente prise à partie de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Depuis, le sommet à Londres semble encore plus crucial. Britanniques et Français travaillent sur un plan de cessez-le-feu aux côtés des Ukrainiens. Hier, c'est dans une ambiance chaleureuse que Volodymyr Zelensky a échangé avec le Premier ministre britannique, loin des invectives de Donald Trump. Et aujourd'hui, autour de Keir Starmer, une quinzaine de dirigeants alliés de Kiev, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et le Canada, ont pour mission d'imaginer de nouvelles garanties de sécurité pour l'Ukraine et pour l'Europe face au rapprochement entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Volodymyr Zelensky sera présent au sommet et dans une interview à la presse écrite ce matin, Emmanuel Macron appelle au réveil stratégique du continent face aux incertitudes du soutien américain. Le président français insiste sur la nécessité pour les 27 de financer massivement une défense commune. Le moment est grave selon lui, mais l'Europe ne doit pas paniquer. Aurélien de Vernois.
Il est minuit moins le quart avant une possible catastrophe, alerte Emmanuel Macron. L'esclandre entre les présidents ukrainiens et américains est évidemment inquiétant, selon le chef de l'État, mais pas question pour autant de faiblir. Ce qui s'est passé dans le bureau ovale contribue à la prise de conscience collective, estime Emmanuel Macron, qui déclare s'être entretenu dès vendredi soir par téléphone avec Volodymyr Zelensky et Donald Trump. De ces conversations, il ne laisse filtrer aucun détail, mais avertit, si les États-Unis concluaient un cessez-le-feu seulement avec la Russie, cela contreviendrait céderait au droit international, ce serait une rupture profonde et, craint-il, un signal donné à Moscou pour aller plus loin, vers la Moldavie, voire la Roumanie. Ce n'est pas l'intérêt de Washington, assène le président français, tout en poussant pour une action rapide de l'Union européenne en faveur d'une défense commune. C'est le moment du réveil stratégique européen, juge Emmanuel Macron, qui s'interroge. Veut-on choisir ou subir notre destin ? D'où l'importance des rendez-vous des prochains jours, le sommet européen de Londres ce dimanche, puis le Conseil de l'Europe jeudi à Bruxelles. Emmanuel Macron, qui entend bien à ces occasions placer la France au centre du jeu, forte de sa dissuasion nucléaire.
À la demande de Friedrich Merz, Emmanuel Macron se dit prêt à ouvrir la discussion sur une éventuelle future dissuasion nucléaire européenne. Une révolution pour un dirigeant conservateur allemand très atlantiste. Le futur chancelier juge nécessaire que l'Europe se prépare au pire scénario d'une OTAN lâchée par Washington. La mobilisation étudiante se poursuit en Serbie. Hier, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Niš, dans le sud-est du pays, pour dénoncer la corruption. Un mouvement lancé en novembre après un accident mortel dans la gare de Novi Sad qui avait fait 15 morts. Le drame est devenu le symbole de la corruption et de l'incurie politique. Les étudiants ont réussi à fédérer la colère de beaucoup de Serbes. À Niš, Laurent Rouy.
Si les étudiants ne visent pas nommément le président Vučić, tout le monde lui reproche ses attaques contre la démocratie, comme Stefania, jeune maman à Niš.
La carte du parti est nécessaire partout, à commencer par l'école, l'hôpital. Par exemple, à la maternelle, on a attendu 4 ans une place pour ma fille, simplement parce qu'on n'avait aucun contact avec le parti.
Des Serbes de tout le pays sont présents. Les revendications tournent autour de valeurs démocratiques essentielles. Les étudiants se succèdent à la tribune.
La justice est la base d'une société stable. Nous voulons des tribunaux indépendants, des médias libres, des institutions libres dont le travail est régi par la loi et non par les pressions politiques.
Ces protestations dans les grandes villes de province visent avant tout à montrer à la population mal informée le soutien massif dont bénéficie le mouvement. Angela, étudiante, évoque déjà le prochain rassemblement.
Il n'y a jamais eu autant de monde à Niš. Je pense que tous ces gens iront à Belgrade. Personne ne sait quand tout cela va finir. Mais Belgrade est la capitale et on suppose que le prochain rassemblement aura un impact, qu'il y aura beaucoup de monde.
Le président Vučić fait toujours la sourde oreille aux manifestants. Rien ne dit qu'il changera d'attitude, même au prochain rassemblement. Laurent Rouy, Niš, RFI.
Retour au Royaume-Uni, à présent en Écosse, à la pointe septentrionale des îles britanniques, les Shetland. Londres a autorisé l'installation d'un pad de lancement de roquettes spatiales. 30 tirs sont prévus chaque année, le premier est attendu cet été. L'objectif est de lancer des satellites depuis la zone Europe et concurrencer la base française de Kourou en Guyane. Mais comme avec les fusées américaines lancées par SpaceX ou Blue Origin aux États-Unis, l'avancée spatiale a un coût écologique. Reportage de Thomas Arms aux îles Shetland.
Sur l'île d'Hunst, les 632 habitants espèrent des retombées économiques du spatioport. L'île a perdu des emplois avec la fermeture d'une base de l'armée de l'air britannique. Trevor Spence vient de donner à manger à ses poneys Shetland. Le vent souffle à 40 km/h.
Je ne sais pas. Au début, je pensais que c'était une super idée. Mais en fait, très peu de gens locaux travaillent là-bas.
Les pêcheurs, eux aussi, sont dubitatifs. Daniel Lawson défend les équipages des 115 bateaux de pêche locaux au sein de la Shetland Fishermen's Association et une zone d'exclusion de 58 km² autour du pas de tir est prévue les jours de lancement. Mais pas uniquement.
La zone d'exclusion va rester en place, même s'il y a un retard à cause de la météo, et peut empêcher la pêche pendant plusieurs jours avant que le lancement ait lieu.
Outre le souci économique, il y a la question écologique. Car contrairement aux fusées de SpaceX, les sections qui contiennent le carburant, ici, ne vont pas être réutilisées. Le gouvernement à Londres autorise même ces bouts de fusée à tomber en mer sans que personne n'ait à les récupérer.
Ce sont des objets métalliques plutôt gros. Imaginez si vous êtes sur un bateau où cet objet tombe, sans compter que ça va détruire les filets qui touchent le sol marin.
De leur côté, les autorités britanniques affirment que ces débris vont former une sorte de barrière de corail artificielle et servir d'habitat pour la vie marine. Thomas Arms, aux îles Shetland, RFI.
Et on reste dans l'espace. Après 45 jours de voyage, un robot qui transporte divers instruments scientifiques de la NASA s'est posé sur la face nord-est de la Lune. C'est une société américaine qui a réussi à poser aujourd'hui son engin spatial pour le compte de l'agence américaine. Blue Ghost fonctionnera pendant 14 jours et devrait notamment immortaliser au cours de son séjour un crépuscule ainsi qu'une éclipse totale lunaire.